G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et ce soir signe le grand retour de Nolwenn au micro de Topette. Elle vous avait manqué la semaine passée. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Je vais faire la programmation, si tu le veux bien, de la semaine, enfin de la semaine qu'on a passée, et puis de ce qui nous reste aussi à découvrir ensemble. Lundi, nous étions avec le théâtre du champ de bataille. Hier, nous étions avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Demain, nous serons avec la commune de Loire-Authion. Tous trois partenaires de l'émission Topette et de Radio G au sens plus large. Et ce soir, j'ai envie de dire joyeux anniversaire, n'est-ce pas Nolwenn?
Et oui, parce que ce soir on est avec le Joker's Pub, c'est un bar et salle de concert incontournable à Angers qui fête ses 11 ans et ça a le mérite d'en parler dans Topette. Pour ce faire, je serai accompagnée de Maxime, le programmateur de la salle. C'est l'occasion de représenter les lieux, les personnes qui le font, d'un côté comme de l'autre du comptoir, et la place aussi qu'ils occupent sur la scène angevine. En deuxième partie d'émission, je serai avec un interlocuteur pour parler du salon au vignoble. Ça sera du 22 au 25 novembre. Sans oublier nos chroniqueurs, Adrien, bonsoir.
Bonsoir.
T'es en 4G cette fois-là?
3G et demi.
Ok, non, tu captes pas vraiment, mais tu seras avec nous à 18h30 ce soir. Il y aura aussi le synopsis avec Mathis et Emilien.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Mais avant tout, passons à table.
Et même mieux que ça, nous allons faire une balade avec Camille.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Partons visiter le musée de la tapisserie contemporaine à Angers. Ce musée, situé face à la place Rochefoucauld, fait écho à la tapisserie de l'Apocalypse du château d'Angers, mais aussi au Champ du Monde, tapisserie des années 50-60 de Jean Lursa. À la base, nous y allions pour voir le 12e concours international des mini-textiles. Mais lors de la visite du musée en lui-même, l'abondance de tapisseries et de techniques différentes nous a fascinés. Certains sont plutôt représentatifs d'une réalité, on les comprend aisément, et les œuvres ressemblent pratiquement à une peinture réaliste. D'autres sont bien plus abstraites. Ce sont les œuvres que je préfère. Laisser libre cours à son imagination et échanger avec ses proches sur leur possible signification est une activité très intéressante. Dans certaines salles, on a vraiment l'impression d'être dans un musée d'art contemporain, entouré d'œuvres peintes. Il est difficile de s'imaginer les heures de tissage nécessaires à ces réalisations. Au fond d'une salle, petits et grands peuvent même s'essayer à l'art de tapisser. Des métiers à tisser sont à disposition avec fil et explication. En haut d'escalier, nous arrivons à l'exposition temporaire. Ne dit-on pas tout ce qui est petit et mignon? Eh bien là, on est dans du miniature. Et il y en a pour tous les goûts. Du quotidien, des animaux ou des choses bien plus compliquées à comprendre. Si je devais choisir deux coups de cœur, ce serait une maison miniature à la Tim Burton sur d'étranges pattes d'araignée et un repas typique, steak, haricots verts, tellement ancré dans la réalité. Les œuvres venant du monde entier fourmillent de détails. Bon, allez, on va voter pour notre petit préféré, puis on redescend. Avant de partir, un petit tour dans la boutique. Des livres sur l'art de tisser, des DIY à faire à la maison, de jolies broches, des jeux pour enfants. Il y en a pour tous les goûts. Pas encore rassasié? Sache que la tapisserie Le Champ du Monde de Jean Lursa est juste à côté. Et il est compris dans ton billet d'entrée. Celle-ci nous replonge dans les années 50 et les grands événements de cette époque. Mais ça, on en reparle dans un autre épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Le défi 24 heures Angers Téléthon, c'est vendredi 29 novembre jusqu'au 30 novembre. Ça sera de 16h à 16h le lendemain. Vous pouvez venir marcher ou courir autour de l'étang Saint-Nicolas pour la bonne cause. Plus d'informations sur le site défi24heures.fr. Sinon, il y aura la compagnie des passeurs de l'impalpable, l'enquête 1920, à la salle Hugues Auffray à Saint-Clément-de-la-Place à 20h30 le 23 novembre. Pour plus d'informations, ça sera sur les passeurs de l'impalpable.fr. On va maintenant accueillir notre invité.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir, on est avec Maxime Dubose. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es programmateur du Joker's Pub, c'est rue Saint-Lô dans le centre-ville d'Angers. Et ce soir, on va notamment parler des 11 ans donc de ce bar, ce café-concert. Ça sera les 21, 22 et 23 novembre prochains. Mais avant de parler de cet anniversaire, on va revenir un petit peu sur le Joker's. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer sa création en 2013 ?
Ouais. Le Joker's, c'est un café-concert. C'est ça qui est là depuis novembre 2013. Donc là, en fait, les 11 ans. Et c'est Jean-Yves Carornou qui a monté ce bar. C'est un ancien du magasin Saturne qui était à côté de Monoprix, là, il y a une dizaine d'années. Et il a monté ce bar en bon fan et passionné de rock, de punk. Il avait en fait le souhait de faire un bar qui est à la fois un lieu de vie et un lieu d'accueil de musiciens, de résidences, de concerts, dans un lieu qui est vraiment avec une volonté d'avoir un bon son, un bon équipement pour le public.
Et est-ce que ouvrir une scène musicale en plein centre-ville d'Angers, est-ce que ça n'a pas été compliqué? Il a dû faire, vous avez dû faire des compromis ou ça a été?
Non, il n'y a pas eu tant de compromis à faire parce que le lieu, en fait, s'y prêtait plutôt bien. Il y a eu clairement un très gros aménagement à faire dès l'ouverture, du coup pour des conditions techniques, essentiellement de qualité de son, mais aussi en fait de préservation du voisinage pour pas qu'il y ait de pollution sonore envers les autres riverains. Donc il y a eu un très gros investissement qui a été fait dès le départ là-dessus et qui est très efficace.
Ça fait deux fois que tu parles de la qualité son. Il était au rayon hi-fi enceinte de Saturne.
Il était au rayon musique, mais okay. Le rayon hi-fi était voisin. Puis c'est un gros fan de hi-fi également.
C'est pour ça.
Et puis surtout quand il était plus jeune, il organisait déjà des concerts via des associations. Il avait une asso qui s'appelait Polyrock, qu'il utilise d'ailleurs encore en tant que booking maintenant. Et donc ouais, le son et les concerts, c'était déjà une histoire de longue date. Il a été DJ pendant une vingtaine d'années, disquaire. Donc c'est un vrai bar en fait, de créer par un passionné avec une équipe qui l'est tout autant.
Et pour nous donner un petit peu à voir à quoi ça ressemble justement le Joker's Pub, comment c'est disposé?
Alors le Joker's Pub, en fait, c'est un bar avec une terrasse qui s'élargit le soir. Et en fait, l'intérieur est une espèce de grand rectangle en longueur avec la salle en fait qui se trouve derrière. En fait, quand on rentre dedans, on devine pas forcément qu'il y a une salle de concert. Elle est un peu cachée. En fait, ça se situe dans l'ancien entrepôt du magasin qui précédait le Joker's. Donc faut passer par un petit sas et on a une salle de concert de 100 personnes juste derrière quoi. Mais c'est vrai que en fait c'est la petite difficulté qu'on peut avoir par moment, c'est que en fait on peut des fois ne pas voir qu'il y a une salle de concert même si bon on a les affiches des concerts partout dans le lieu. Ça reste un peu caché.
Est-ce que ça a été une nouveauté sur Angers? Il y avait déjà à l'époque des cafés concerts comme ça dans la ville ou en France, c'était assez courant ou?
À Angers, en tout cas, il y en avait quelques-uns. Il y avait le T-Rock à l'époque, qui faisait encore beaucoup de concerts. Après, en fait, de mémoire, j'ai l'impression que c'était un petit peu les seuls, parce que directement après, on était sur le Shabada, on avait l'Étincelle pour vraiment la scène beaucoup plus punk, et d'autres lieux de temps en temps qui organisaient des choses. Mais c'était essentiellement le T-Rock de mémoire à cette époque-là. Du coup, depuis, il y a eu le Joker's qui s'est créé, qui finalement était un peu l'alternative entre justement le T-Rock et le Shabada, l'espèce d'étape au milieu. Et depuis, on a eu également le garage qui a ouvert.
Et il y a eu près de 600 concerts en tout. Est-ce que vous imaginez un tel succès pour le Joker's?
Honnêtement, je sais pas trop. Je crois qu'on s'en rend pas trop compte. En fait, quand il y a vraiment l'envie de faire des concerts à la passion, ça se suit. Et en fait, on regarde pas plus que ça dans le rétro finalement. Mais c'est vrai que quand on fait le compte, c'est assez impressionnant en réalité.
Et le but initial, c'était de proposer quoi comme type de concert? Des gens plutôt locaux ou des gens connus?
Au tout départ, il y avait quand même pas mal de locales, mais de scènes locales. Il y avait déjà des groupes un petit peu, on va dire, d'autres villes françaises et des pays avoisinants qui venaient jouer chez nous. Et en fait, très rapidement, il y a eu de l'international. Et on va dire que maintenant, on a encore beaucoup de locales. Quasiment tous les groupes locaux jouent, surtout en voie de professionnalisation. Et des groupes d'absolument partout dans le monde qui viennent.
On parle de musique, mais moi j'ai un souvenir d'avoir été voir les Expressos sur scène. Donc il y a aussi du théâtre.
Ouais, il y a du théâtre. On a eu également, bah tu vois, par exemple les Expressos, on travaille avec eux depuis plus de 10 ans, si je me trompe pas. Ils sont là depuis le début en fait, et on continue avec eux parce que c'est une équipe qu'on adore. Ça se passe toujours très très bien. On a aussi fait un petit peu de théâtre d'impro. Peut-être que ça reviendra un moment, on verra. On a également, par exemple, pendant premier plan, des projections de courts-métrages, de clips. On a aussi tous les événements sportifs qui sont aussi une part très importante de notre programmation et auxquels on tient à cœur. Parce qu'en réalité, du coup, on parle de café-concert, mais la réelle volonté de Jean-Yves, du coup, le créateur du pub, c'est de faire un pub, justement. Un pub à l'anglaise, avec à la fois de la bonne bière, pas cher, beaucoup d'événements culturels et aussi, en fait, les événements sportifs. Parce qu'on va dans un pub à Londres, on a souvent une télé avec un match de foot de la Ligue anglaise. C'est vraiment aussi dans l'ADN du lieu.
Oui, un lieu de vie populaire et culturel, du coup.
Ouais, c'est aussi pour ça en fait qu'on reste ouvert la journée. En fait, on pourrait être comme tous les bars ouverts que le soir, mais en fait, on veut aussi être un lieu de vie la journée avec justement plusieurs publics qui se mélangent, des personnes un peu plus âgées, des étudiants. En fait, c'est une chose qui est vraiment importante pour nous en termes de vie, quoi.
J'imagine que vous avez une clientèle du coup très hétérogène. Mmh. Elle est comment? Il y a de tout, des étudiants, des trentenaires?
Complètement. En fait, ça dépend réellement des journées, des périodes de la journée. C'est sûr que par exemple, un mercredi soir ou un jeudi soir, ce sera beaucoup d'étudiants qui ont envie de festoyer. Et le week-end, des trentenaires, des quadras, des personnes plus âgées l'après-midi, en famille. Quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce lieu, quoi. C'est sa diversité. On passe beaucoup de rock, mais finalement, notre clientèle et public est assez varié, c'est pas forcément qu'une niche. Donc moi je trouve ça très agréable de travailler dans ce lieu pour ça aussi.
C'est pas forcément des gens qui viennent pour écouter du rock.
Il y a les deux en vrai, c'est vraiment les deux.
Et est-ce que vous essayez d'adapter la programmation justement à la clientèle peut-être un peu différente, vu que maintenant il y a des étudiants, de plus en plus d'étudiants depuis quelques années?
En partie, mais pas que. En fait, sur l'aspect plutôt club de la salle de concert, donc la DJ set, c'est sûr qu'on pense beaucoup plus aux étudiants. Donc on essaie d'adapter un petit peu en fonction des goûts, tout en gardant l'aspect qualitatif qu'on souhaite conserver aux Jokers. Et par contre, sur l'aspect concert, on reste plutôt sur le rock en général, même si cette année, on aura quelques événements rap, des fois de la musique électronique avec des machines, pas des DJ sets, mais vraiment concert électronique. Mais on reste quand même globalement axé autour du rock et en fait, vraiment sur la prestation scénique. Nous, on aime bien en fait qu'il se passe quelque chose sur scène, qu'on ait matière à regarder, avoir un spectacle en sorte, quoi.
Oui, c'est un vrai spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres genres musicaux que du rock?
Bah justement, ouais, c'est ça, un petit peu de rap, un peu de musique électronique, des fois de la folk. Là, en fin janvier, on aura un groupe de jazz, si je me trompe pas, de Dijon, qui s'appelle Matsutake, qui est très très cool. Donc on essaye d'ouvrir. Après, dans l'ADN, on reste plutôt rock. Mais voilà, on essaie de faire quand même varier de temps en temps, quoi.
On fait une petite pause musicale et on reviendra juste après pour parler du coup des 11 ans et on écoute une petite musique.
Tired of this.
c'était Ties and Pocket Squares, c'était de Rest Up qui sera au Jokers pour les 11 ans. Et donc on est de retour avec le Jokers Pub ce soir dans Topette qui fête ses 11 ans. C'est le Jokers qui fête ses 11 ans, pas Topette. Et dans quelques instants, Adrien nous fera rire, mais avant tout, on va rester avec Maxime pour parler du coup de cet anniversaire et un petit peu du programme. Alors les 11 ans, ça sera le jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 novembre. Pour parler un petit peu du programme, le premier jour, le jeudi, ça se passera au Jokers Pub. On aura les Crocodiles qui arrivent des USA. Ils sont actuellement en tournée en France, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel style de musique ils font ?
Crocodile, c'est un groupe de rock psyché qui a dû débarquer à la toute fin des années 2000, vers 2008-2009. Et en fait, c'est un groupe qui a été assez important pour la scène rock locale angevine d'il y a 10 ans, au tout début des années 2010. Ils avaient fait un concert au Shabada, je pense, vers 2012, qui avait vraiment marqué beaucoup de musiciens qui étaient présents. Et en fait, il y a beaucoup de groupes qui sont créés suite à ce concert à ce moment-là. Ça intervenait un peu en même temps que la première édition du Festival Lévitation. Donc, il y avait une espèce il y avait un truc qui se passait en fait autour du rock psyché. C'était le retour du rock aussi un peu tout court localement, quoi.
Ensuite, le lendemain, le vendredi soir, il y aura Demi, un groupe qui vient aussi des États-Unis. À quoi ça ressemble, ce groupe ?
C'est un peu dur à définir, mais faut imaginer une musique très saturée, très planante, avec des voix assez douces, et un espèce de mélange entre une musique très réverbérée et en fait des voix assez douces. En fait, je me répète. En tout cas, c'est un groupe dont je suis très 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 fan. Je suis vraiment heureux de les avoir, quoi.
Et juste après, on aura Rest Up, dont on a écouté un morceau juste avant. Ouais. C'est un groupe qui est composé de trois jeunes angevins qu'on connaît bien, puisqu'ils sont passés dans Topette il y a 2 semaines. On les avait interviewés avec le Shabada qui les accompagne. On vous renvoie vers le site internet de Radio G. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe de jeunes, toi ?
Rest Up, c'est des personnes déjà que je trouve absolument adorables. Et au-delà de ça, je pense que c'est un des groupes les plus intéressants qu'il y a eu à Angers depuis vraiment un moment. En fait, ils ont une espèce d'énergie qui est folle, et en fait, ils écoutent énormément de musique très très variée, et ça se ressent dans leur manière d'en concevoir. Là, ils sortent de l'enregistrement d'un album qu'ils ont fait en Angleterre avec un musicien d'un groupe qui s'appelle Guy Laband, dont on est très fan aussi au Jokers, un groupe de noise très agressif. Et en fait, cet album à venir vraiment va être super, quoi.
Il y en a peu des jeunes qui montent comme ça des groupes de rock sur Angers.
En ce moment, il y en a moins, mais c'est des cycles qui vont aussi avec les modes. On est plutôt dans une phase qui va en ce moment vers la pop en français, vers le hip hop, tout ça, et c'est très cool. Et le rock, ça reviendra peut-être un peu plus tard.
Mais ça fait du bien d'avoir des nouveautés.
Justement, ça aide un petit peu peut-être le Jokers, le fait qu'il y ait une scène qui soit proposée comme ça, qui puisse aussi être un peu un goal à atteindre quand on est sur Angers. C'est-à-dire, oui, on va le faire, on va créer notre formation musicale et puis peut-être monter sur la scène du Jokers.
C'est vrai qu'il y a régulièrement des groupes, en tout cas, qui démarrent en formation, qui nous contactent pour faire des premières scènes, quoi. Ça arrive souvent.
Et pour revenir un petit peu du coup au programme, le dernier jour, le 23 novembre, il y aura un peu plus de groupes, il y en aura 4. Et le lieu, il va changer, ça sera au Carnet. Donc il y aura Beastly et ouais. Sandwich, deux groupes angevins. Il y aura aussi Johnny Carwash, un Lyonnais, et Marc Minelli,
si
je ne dis pas de bêtises, qui vient de Rennes. À quoi va ressembler cette soirée ? Ça va être quel style de musique ?
En fait, là, nous, on a un peu envisagé ça comme une soirée autour du punk au sens vraiment général, en fait, parce que les quatre groupes font partie de l'esthétique punk, mais ils sont quand même assez différents. Par exemple, on prend un groupe comme Beastly, on sentira beaucoup plus l'influence d'un Red Hot Chili Pepper ou d'un Rage Against the Machine, avec un côté un peu fusion. Sandwich, dans lequel je chante d'ailleurs, on est beaucoup plus sur un truc dansant, très punk et très très bruyant. Johnny Carwash, c'est le punk fun et frais. Et Marc Minelli, en fait, c'est quelqu'un qui faisait de la musique fin 70, années 80, proche de la clique d'Étienne Dao, tout ça. Et lui qui est un énorme fan des Clash, donc je pense qu'on aura des versions acoustiques de tout ça.
Et pourquoi avoir choisi le Carnet comme endroit ? C'était pour sortir du Joker ?
C'est pour prendre un petit peu l'air, parce que sinon on commence à être desséché au sein du Joker. Et puis pour pousser un petit peu les murs également.
Et si on est intéressé, est-ce qu'il reste encore des places ? Il y a des créneaux déjà complets ?
Alors pour le jeudi et le vendredi, on est complet. On mettra peut-être une poignée de places en vente, mais ça reste à définir encore. Mais pour l'instant, on est complet. Et le samedi, il reste des places, ouais.
Alors même si vous n'avez pas réussi du coup à choper vos places pour les premiers jours, tant pis, les concerts c'est toute l'année aux Jokers, ils sont programmés du coup par toi. Comment tu es venu à devenir programmateur aux Jokers ?
Alors moi je fais un peu partie des murs du Jokers maintenant, parce que je suis arrivé quasiment au tout départ. En fait j'étais étudiant et j'ai fait une saison à peine un an après l'ouverture. Et à cette époque-là, on était une équipe beaucoup plus petite. Je travaillais en fait avec le gérant du bar qui faisait encore du service à cette époque-là. Donc on a fait énormément de services. On finissait à pas d'heure, lui et moi, écouter de la musique. Comme en fait, on est deux très passionnés avec mine de rien beaucoup de goûts en commun. En fait, on buvait des petits coups après avoir servi à nos clients, à se faire écouter beaucoup de musique punk et diverses, à découvrir beaucoup de choses. Moi, j'ai fait des allers-retours ensuite en fonction des différents métiers que j'ai pu faire. Et je suis revenu en fait à Angers il y a quelques années. Je suis revenu au bar et l'ancien programmateur du coup a changé de voie. Et j'ai pris le relais parce que je pense que le patron devait avoir confiance en mes goûts. J'ai eu aussi beaucoup de groupes de musique, j'en ai encore d'ailleurs beaucoup. Donc il y avait un petit réseau qui était déjà présent. En tout cas, une connaissance de ce milieu, je pense, qu'a été décisif là-dedans.
Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates de concert au Joker. C'est un rythme quand même assez soutenu. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on est à court d'inspiration, où il y a toujours des nouvelles choses à organiser?
Bah, c'est vrai qu'il y a un rythme clairement effréné, mais en fait, je souffre pas trop de ce manque d'inspiration pour le coup. Il y a plusieurs raisons. C'est que je suis un réel boulimique de musique. Donc concernant, j'ai par exemple tous les vendredis depuis je pense 10 ans, j'ai les alertes des sorties de disques, j'ai genre une vingtaine ou une trentaine de noms et j'écoute tout. Donc finalement, je découvre tout le temps des trucs. Et il y a aussi, comme le Joker, c'est maintenant une place vraiment connue nationalement et du coup internationalement via les réseaux de tourneurs. Bah en fait, j'ai aussi tout le temps des nouvelles découvertes qui viennent à moi en fait naturellement. En fait, les moments où on peut se lasser un petit peu, c'est surtout vis-à-vis des genres qu'on écoute. Et donc on peut switcher un petit peu. L'an dernier, par exemple, pour ma première année, je pense que j'ai fait beaucoup de rock indé, ce qui était très cool. Enfin, j'ai adoré. Mais j'ai eu besoin pour cette deuxième année d'ouvrir un peu la porte à d'autres styles. C'est pour ça qu'il y aura un petit peu de rap, de choses comme ça, quoi.
Et comment on sélectionne les concerts? Comment on les choisit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'aident autour?
Alors, je demande quand même souvent un avis. Enfin, je fais confiance un peu à mon instinct, mais je demande régulièrement des avis quand j'ai un doute, on va dire. Après, c'est pas si compliqué par moment, parce qu'il suffit de voir en fait à quoi va ressembler le groupe en live. Et notre public, en fait, qui est assez habitué aux Jokers, est vraiment sensible à ça. Par exemple, si on a un groupe qui a une live session qui est bien filmée avec un bon son et où on sent qu'il va y avoir une énergie sur scène, c'est clairement quelque chose qui change mon état d'esprit là-dessus. J'ai beaucoup de mal, par contre, à programmer un groupe qui a pas encore de matière visuelle. Ce qui est un peu dommage, mais en fait, il y a une réalité qui est que le public, en fait, a souvent besoin de ça pour être convaincu d'aller voir un groupe. Et souvent, moi, c'est de l'ordre de la live session.
Et justement, quand on est un groupe comme ça qui émerge, est-ce que Angers, c'est assez propice au développement pour les groupes de musique?
Ouais, complètement. Parce qu'il y a quand même pas mal de lieux de diffusion. Donc, il y a nous, il y a le garage, il y a le T-Rock pour d'autres styles, il y a le Shabada. Et en fait, il y a également beaucoup de professionnels de la scène culturelle. On a beaucoup de tourneurs. Je pense à Twin Vertigo, à l'Igloo, à Polyrock. Il y en a d'autres, Tigre Noir, il y en a plein d'autres, en fait. Il y a le 4 aussi en lieu de diffusion. En fait, il y a énormément d'interlocuteurs à qui parler. Il y a Nantes aussi qui est pas loin. C'est une ville et globalement une région où c'est assez facile de démarrer dans la musique. En fait, les choses qui sont plus compliquées en ce moment, c'est quand on est un artiste ou un groupe, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller en termes de développement de projet, de carrière, et ensuite trouver les bons interlocuteurs.
Merci Maxime d'avoir répondu à toutes mes questions. On pourra redonner toutes les infos pratiques à la fin. Mais maintenant, on passe à Adrien Capterien.
Adrien Capterien, dans Topette. Mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Oui, moi, il y a un truc que particulièrement je capte pas en ce moment, c'est pourquoi Pierre Benoît, ici présent, oui, j'ai des dossiers, pourquoi Pierre Benoît a-t-il appris le néerlandais alors qu'il a jamais vécu aux Pays-Bas ni en Flandre? Et alors, il m'a dit que c'était par plaisir, et moi, je pense qu'on apprend le piano par plaisir, on part à Bali par plaisir, à la limite, on écoute Radio G par plaisir après avoir gobé un Lexomil, mais on n'apprend pas le néerlandais. Bon, moi, ça fait un mois que je suis pas venu. Du coup, il s'est passé plein de trucs. C'est long, un mois. Par exemple, Donald Trump a été élu. Et moi, j'ai rencontré la femme de ma vie ce mois-ci.
Oh.
Elle s'appelle Vanessa. On s'est rencontrés via une application, Doctolib. Je sais pas si vous connaissez. Alors, elle parle pas beaucoup, Vanessa. Elle est très, très dans l'écoute. En même temps, pour 45€ de l'heure, elle peut. Et Vanessa, elle m'a dit que j'avais le syndrome de l'imposteur. Et je pense qu'elle a complètement raison, parce que moi, je suis vraiment un imposteur. Mais pas autant que Pierre Benoît. Comment on dit imposteur en néerlandais?
Oui, bah là... Oh.
Ouais, voilà, quel imposteur. Moi, ma plus grosse imposture, c'est que j'ai mon permis de conduire alors que je vois rien du tout. C'est-à-dire, déjà, je vois pas en 3D. Moi, si tu dessines un escalier sur un mur, je me casse le nez. Je vois pas en 3D et en plus je vois flou, mais vraiment très très flou. Et je refuse de porter des lunettes parce que je trouve que la vie est plus belle quand elle est floue. Moi surtout la nuit. Moi je trouve qu'il y a rien de plus beau que le halo des lumières d'un péage qui s'approche à 130 km/h. Bon, j'ai eu le permis, mais j'ai eu le permis en Belgique, donc c'est un peu triché et je l'ai pas eu du premier coup. Déjà j'ai passé le code, c'est assez facile, le code belge, c'est feu rouge je m'arrête, feu vert je démarre, un vieillard au milieu de la route.
Ben, je m'arrête, non?
Je m'arrête, très bien. Bon, du coup, ils m'ont donné le papier du code avec un gros tampon comme ça, et je leur ai dit, il y a écrit quoi sur le papier? Parce que moi, je vois rien. Et ils m'ont dit, il y a écrit test de vue, ok. J'ai pas fait de test. Bon, là, du coup, je me suis vraiment senti comme un imposteur. Et quelques mois plus tard, je suis allé passer l'examen de conduite. Donc, j'arrive au centre d'examen, comme ça, au volant de ma 106. Parce qu'en Belgique, en fait, tu passes le permis de conduire avec ta propre voiture. Donc avant de passer le permis, t'as le droit de conduire ta voiture pour t'entraîner. J'ai toujours pas compris à quoi servait le permis de conduire en Belgique. Et du coup, j'ai raté l'examen de conduite parce que c'est dur de faire un créneau quand on voit pas en 3D. Bon, du coup, je suis rentré du centre d'examen au volant de ma voiture, comme ça. C'est pas très radiophonique ce que je fais, mais en me disant que c'était quand même un peu dommage d'avoir raté le permis. Et quand tout à coup, au milieu de la route, un vieillard. Donc qu'est-ce que je fais?
Tu t'arrêtes.
Je m'arrête. Et il me fait des grands gestes comme ça. Il me dit, je me suis fait kidnapper. J'ai réussi à m'enfuir. Est-ce que vous pouvez m'emmener loin d'ici? Alors moi, je lui dis oui, à moitié paniqué, à moitié excité. Alors une fois qu'il est rentré dans ma voiture, je pars pleine balle comme ça avec ma 106. C'était ma première course poursuite, alors que j'ai même pas le permis. Mais je veux semer mes ravisseurs, moi, au cas où il soit à mes trousses comme ça. Dans ma tête, j'étais dans Taxi 4. Et donc du coup dans la voiture, je sens que le monsieur est un peu rassuré, comme ça il commence à me raconter son expérience. Il s'est fait enfermer 5 jours dans une cave sans boire ni manger. Alors moi je lui donne une bouteille d'eau, comme ça on sympathise. Et il m'a toujours pas dit où il voulait aller, donc j'appelle la police, je tombe sur un flamand. Je lui explique un peu la situation, j'ai dit French, kidnapping. Et là le policier commence à me parler un peu en français, il me dit est-ce que le monsieur sent la bière? Sachez que si vous faites kidnapper un jour en Belgique, c'est la première question qu'on va vous poser. Si vous vous êtes fait kidnapper, mais combien avez-vous bu de bière? Je fais très mal l'accent belge. Bon, du coup, alors je lui dis, je crois pas qu'ils sentent la bière. En fait, tout le monde sent plus ou moins la bière en Belgique. C'est pas un truc qui vous saute au nez, quoi. Du coup, la police arrive, il commence à s'occuper du monsieur et moi, il m'interroge. Et je lui dis, j'ai pris le monsieur là-bas devant un grand bâtiment rouge au croisement de la chaussée de Charleroi et la rue je sais plus quoi. Et le gars, il me dit, devant l'hôpital psychiatrique. En fait, j'avais pas du tout sauvé un homme d'un kidnapping, j'étais complice d'une évasion. Alors, c'est qui l'imposteur?
Crevalder.
Merci beaucoup, Adrien. On se pose en salle de ciné dans quelques instants avec Mathis et Emilien, mais avant tout, on va partir tous ensemble au vignoble. Ce soir, on est avec Thomas Pluvinage. Vous êtes responsable commercial vin et gastronomie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez donc au salon Au Vignoble. C'est un salon qui se déplace dans toute la France, Biarritz, Caen. Et ce vendredi, il s'arrêtera à Angers pour 4 jours jusqu'au 25 novembre. Ça sera au parc des expositions d'Angers. Il y aura 120 exposants. Est-ce que Thomas, vous pouvez nous expliquer un petit peu le programme, le déroulement?
Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est vrai qu'au niveau du concept, on est sur un concept qui est un peu à part, parce que vous aurez un petit tour de France, même si au niveau de Angers et de sa région, on est dans une région viticole, c'est l'occasion de découvrir vraiment tout le terroir français avec toutes ces régions de France. Il y a un principe aussi d'exclusivité, puisque tous les produits que vous trouverez, vous ne les trouverez pas en grande surface, et vous avez la possibilité en plus de goûter avant d'acheter, parce que vous trouvez ça nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Après, c'est vrai que au niveau du déroulement et des jours et des horaires, on sera ouvert vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h, et si vous voulez y aller de manière plus tranquille, le lundi de 10h à 17h.
Et on pourra directement rencontrer les artisans sur place, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi de nos valeurs. En fait, c'est l'occasion de rencontrer directement les producteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, vous avez des prix producteurs, comme si vous alliez au domaine viticole directement. Et en termes d'exposants, vous avez 70% à peu près de vignerons. et 30% de gastronomie qui est triée un peu sur le volet. C'est-à-dire que sur les vignerons qu'on a, on a 99% de producteurs. Et sur la gastronomie, on peut avoir quelques revendeurs, mais qui vont essayer de vous apporter un rapport qualité-prix, parce qu'ils vont acheter en gros et au détail, qui est intéressant.
Et il y aura aussi pas mal de produits issus de la certification HVE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Oui, en fait, on a deux certifications, en tout cas, qui sont importantes dans la viticulture. C'est le bio, évidemment, et le HVE. Donc HVE, c'est haute valeur environnementale par rapport aux produits conventionnels, qui est déjà très réglementé chez les viticulteurs. Le HVE, en fait, réglemente le fait que, au niveau des pesticides, ou qui est pas beaucoup utilisé, mais en tout cas, et il y en aura un peu moins, en tout cas, c'est assez surveillé. Voilà, c'est un différent mode de culture raisonnée par rapport au bio. Chacun a ses avantages, mais en tout cas, c'est un respect de la nature qui est mis en avant à travers le HVE.
Et sur ce salon, donc, il y aura des viticulteurs aussi qui feront la promotion de l'œnotourisme aussi, c'est ça ?
Oui, en fait, alors ça, peut-être que les auditeurs connaissent, le principe est tout simplement de, quand vous rencontrez votre producteur, vous pouvez aussi aller le voir chez lui. Et ceux qui mettent en avant l'œnotourisme ont souvent des chambres d'hôtes, et ça vous permet de dormir chez viticulteur, et ainsi de vraiment plonger dans l'expérience de l'œnotourisme. Donc quand vous les rencontrez sur le salon, si des fois vous avez envie de préparer un petit week-end ou des vacances, je sais pas, dans le Beaujolais ou dans la région de Bordeaux, ça peut être très sympa de faire une étape chez un viticulteur.
Et concernant du coup le salon et ses nouveautés, ce sera les 30 ans cette année, la 30e édition. Est-ce que pour l'occasion, il y aura quelque chose de spécial ? Il y aura des nouveautés ?
Alors en termes de nouveautés, on va surtout mettre en avant le fait qu'on fait, on fait toujours gagner un petit magnum à l'entrée. Et ça, c'est assez récent qu'on puisse le faire. Et pour nous, c'est le plus important. Et après, en termes de nouveautés, ça va être plutôt les vignerons qu'on a rajoutés. Notamment avec, par exemple, le château Candel-Saltre, qui est une petite exploitation familiale dans le Cahors, avec 21 hectares, et qui fait une vinification traditionnelle. Et ça, ça peut être intéressant. Ou après, par exemple, le domaine des Coteaux Blancs, qui est issu de la Vallée de la Loire, ce qui peut être intéressant aussi, qui est en conversion bio depuis 3 ans, donc ils peuvent vous expliquer comment se passe la conversion. Voilà, c'est vraiment, on va dire que sur cette 30e édition, on va plus être axé sur la qualité des exposants qui sont présents, avec aussi, à destination des visiteurs, tous les jours, un magnum de vin à gagner à l'entrée.
Et concernant, si on revient un petit peu en arrière, à la création du salon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet ?
Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que nous, on est issus de Brest, les organisateurs. Et donc, en 1984, on a créé le Salon de Brest. Et petit à petit, donc c'est vrai que en 1994, dans le cadre de notre développement, on a ciblé la ville d'Angers. Alors, Angers, pourquoi ? Parce que même si on est dans une zone viticole, ça faisait partie des salons où il y avait une demande. En tout cas, les Angevins sont très intéressés par le vin. Et pour vous dire, le succès a été quasiment immédiat. Donc, nous, ça fait partie de nos plus vieux salons. On en a 18 en France, mais c'est vrai que dans les 10 salons qui sont importants à Angers, le salon au vignoble est un atout majeur à Angers. Et il faut savoir que nos exposants nous le disent souvent, les Angevins sont très intéressés par le vin, mais aussi très fidèles, puisqu'on a des visiteurs qui viennent sur le salon depuis 30 ans, comme des exposants aussi qui viennent sur le salon depuis 30 ans.
Et si on veut faire ses courses pour Noël, ça semble être plutôt le bon plan. Du coup, l'entrée est payante. Où est-ce qu'on peut réserver nos places ?
Alors, soit vous allez sur notre site internet et vous nous suivez sur les réseaux sociaux, et bien sûr, vous pouvez avoir des invitations gratuites. Ou soit, c'est vrai que on vous présentez, dans ce cas-là, nous vendons des places à 5 euros. On vous invite du coup plutôt à nous suivre pour avoir des invitations gratuites. Et c'est vrai que vous avez raison, pour faire vos achats avant Noël, au-delà du vin et de toutes les régions, on a aussi des produits qui vont vous plaire, avec plus de 6 producteurs de foie gras. Et ça, je pense que pour les tables de Noël, c'est l'outil parfait. Mais aussi, on aura de la vanille, des biscuits salés ou des macarons, ou vous pourrez avoir de la charcuterie comme vous en voulez, mais aussi avec des petites sauces aux champignons, des escargots, bref, de quoi remplir sa table de manière adéquate.
Et concernant l'œnologie et la gastronomie en Anjou, est-ce qu'il y a un petit peu des tendances qui se dessinent, qu'on arrive à déceler en Anjou ?
Alors, c'est vrai que sur le, sur, je vais parler de la vallée de la Loire en général, parce que il y a l'Anjou qui se dessine, mais aussi la vallée de la Loire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, avant, la région qui était en tête, c'était la région bordelaise et aussi la région Bourgogne, où dans tous ceux qui avaient dans le palais, en tout cas des Français, c'était les deux régions préférées. Depuis deux ans, nous, on fait une enquête auprès de nos 250 000 visiteurs. Donc, on arrive à avoir une vraie tendance. Il n'y a personne qui arrive à savoir en France l'échantillon comme on le fait. Donc, on a fait une enquête auprès de tous les consommateurs, en tout cas, qui viennent chez nous. Et la Vallée de la Loire est la région qui est la région préférée des Français avec le Bordeaux. Donc, en fait, elle devient la deuxième ou première ex aequo avec la région bordelaise. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que la tendance de consommation sur la Vallée de la Loire est de plus en plus forte. Puisque quand je prends un Anjou, par exemple, le rapport qui a été pris est excellent. Et ça, il faut garder ça en tête. Vous avez des vins qui sont déjà bons, équilibrés. Mais en plus, c'est vrai que par rapport à d'autres régions, le coût, en tout cas nous, en tant que visiteurs ou en tant qu'acheteurs, est plutôt bon.
Et est-ce que vous avez remarqué un attrait constant pour l'artisanat, un attrait qui ne baisse pas?
Oui, en fait, depuis le Covid, on se rend compte que que ce soit pour l'artisanat ou pour les producteurs, les visiteurs sont de plus en plus friands à savoir la traçabilité des produits, à avoir le lien directement au producteur. Donc on sent un réel engouement. Là, je vais vous dire, on sort d'un salon à peine il y a deux jours, le salon de Nantes qui a fini hier, et on a fait plus de 20% de visiteurs, plus de 15% en tout cas, qui est assez étonnant, et ça fait le quatrième salon de suite qui fait ça. C'est-à-dire que l'engouement revient en tout cas, et on le sent encore plus cette année. Je pense que c'est vrai que on est dans... Et là, je vais parler de l'actualité, qui des fois est un peu sombre. On peut être, nous, on est dans un salon qui est là pour le plaisir, un salon d'épicurien. Donc, on sent qu'en tout cas, on retrouve tous nos visiteurs avec le sourire, avec la bienveillance, et ça, c'est le plus important.
Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Thomas Pluvinage, d'avoir répondu à toutes mes questions. On vous donne rendez-vous, du coup, à vous, auditeurs, du 22 au 25 novembre au Parc des Expositions d'Angers pour découvrir toute la gastronomie et l'œnologie au salon au vignoble.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Un peu de ciné, ça fait du bien, non? Posez-vous dans le fauteuil rouge. Mathis et Emilien dirigent la séance. C'est l'heure du synops.
Le synops. La splendeur du cinéma d'auteur avec Mathis et Emilien.
Bienvenue à vous. Ce lundi 11 novembre à 18h30 au cinéma d'art et d'essai d'Angers des 400 coups, nous avons visionné le dernier long métrage de Boris Lochkin, L'histoire de Souleymane. Avant-propos, je tiens à vous avertir que cette séance n'était pas en avant-première. Nous avons simplement décidé avec Mathis de visionner en particulier ce film qui nous faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. À travers ce podcast, le synops, vous allez donc découvrir notre avis sur l'histoire de Souleymane, un thriller palpitant qui nous plonge dans l'univers difficile d'un réfugié devenu livreur Uber Eats, cherchant coûte que coûte à obtenir le droit d'asile pour vivre en France. Au casting, nous retrouvons Abou Sangaré dans le rôle de Souleymane, Alpha Omar Sow dans le rôle de Barry, et enfin Nina Meurice interprétant ici le rôle de l'agent de l'OFPRA. Ces informations, vous pourrez comme d'habitude les retrouver sur le site des 400 coups. Mathis, je te laisse désormais la place pour le synopsis.
Souleymane Bagaré a fui la Guinée à la recherche d'une vie meilleure pour lui et pour sa mère malade laissée au pays. Il a traversé le Sahara, l'Algérie, la Libye ou encore l'Italie pour venir rejoindre la France. À Paris, il tire le diable par la queue. Dort au 115, sillonne la ville à vélo pour y livrer des repas, alors même que son statut de demandeur d'asile lui interdit de travailler. Cependant, dans deux jours, l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuera sur sa demande de titre de régularisation. Mais son dossier semble fragile pour une France qui, a posteriori, régulariserait uniquement des individus ayant vécu la guerre. Souleymane s'est alors procuré auprès d'un compatriote moyennant finance un récit qui pourrait faire évoluer sa situation si celui-ci est suffisamment convaincant et persuasif. S'entremêlent alors sujets sociaux, histoire d'amour et absurdité administrative.
Pour débuter cet échange, je vais tout d'abord partager mon ressenti. Cette histoire m'a touché, non pas sous le prisme unique de son pathos, c'est-à-dire du purement émotionnel, mais plutôt sur l'accent porté à la situation complexe de Souleymane, qui ici sert de phare mettant en lumière l'extrême précarisation de ses livreurs de nos repas du midi et du soir. On s'immerge dans le quotidien difficile de Souleymane, accentué en fait par le choix d'avoir favorisé ce système de caméra à l'épaule, qui va rendre à ce quotidien un aspect anxiogène, où se forme une course permanente et infinie, tendant le spectateur, qui, c'est un compliment ici que je porte pour Lochkine, n'a pas le temps d'envisager la suite de l'histoire et se laisse en permanence surprendre.
L'histoire de Souleymane, de mon ressenti, semble être un film purement militant, mais ne tombe pas dans le cinéma moralisateur. J'ai trouvé ici qu'il s'agissait surtout de sensibiliser l'opinion publique, d'un sujet social, et ainsi tendre à ce qu'il devienne sociétal, comme si ce film serait en réalité catalyseur de changement, car finalement qui n'est pas concerné par la cause des sans-papiers ? Ce film invite à la reconnaissance de nos privilèges et des différents enjeux sociaux qui y sont traités. Et pour ce faire, d'un point de vue cinématographique, quoi de mieux que d'utiliser une colorimétrie froide pour renforcer ce réalisme presque documentaire, de représenter la froideur sociale et l'indifférence, ou encore de mettre l'accent sur l'introspection et la solitude de Souleymane.
À l'opposé du film dont on avait fait une critique il y a quelques mois qui s'appelait « Même si tu vas sur la lune » de Laurent Rodriguez, il n'y a absolument pas le même sentiment de grand soutien entre ces communautés de réfugiés. J'y ai même perçu une forme de compétitivité. Je prends ici l'exemple de la scène où Souleymane va tenter d'obtenir de l'aide de la part d'un autre Guinéen pour affiner son récit. Celui-ci, très froidement, va l'envoyer balader. Libre interprétation à chacun, mais sachant la sélection des bénéficiaires du statut de réfugié très limité, elle pousse finalement ces individus à se vendre le plus possible pour sortir du lot. Jusqu'à donc inventer de toutes pièces un scénario poignant qui pourrait légitimer leur venue sur le sol français. On découvrira que ce récit mensonger causera bien du tort à Souleymane, éludant peut-être de trop la sincérité de son parcours.
Il y a également un point à souligner, c'est que ce film s'exprime très clairement sur la traduction même de ce que pourrait être ou est l'esclavagisme moderne, notamment par une précarité certaine. On parle d'environ 800 euros de salaire par mois et des conditions de travail dégradées de ces livreurs Uber Eats. Tout cela agrémenté d'une pression constante à la productivité et une absence totale des droits sociaux, car leur statut de livreur renforce leur vulnérabilité parce que responsable de leurs propres frais, vélo, véhicule, carburant, et donc propice au surendettement. De plus, il était ici très important de montrer comment la vie de Souleymane était rythmée par des effets papillons. C'est-à-dire que compte tenu de son aliénation à la société, ce livreur Uber Eats est sans cesse soumis à une tension qui résulte non pas d'événements exceptionnels, mais de petits soucis du quotidien qui prennent ici des allures de quitte ou double décisif. Arrivera-t-il à attraper son bus? Fera-t-il réparer son vélo? Conservera-t-il l'usage du compte Uber qu'il sous-loue au risque de perdre beaucoup?
Pour continuer dans le domaine de cette situation précaire et de cette sous-location, c'est vraiment ce domaine de cette sous-location des comptes Uber Eats qui, moi, m'a choqué puisque je l'ignorais totalement avant visionnage. Beaucoup des jeunes réfugiés, lorsqu'ils débarquent en France, ont l'interdiction de se faire de l'argent et d'avoir un emploi. Ils sont alors, pour certains, contraints de devoir payer pour obtenir le compte Uber Eats à d'autres réfugiés qui ont obtenu le droit d'asile en leur fournissant une partie de leurs gains chaque semaine ou chaque mois. Question de se faire un peu d'argent. Cette sous-location donne alors aux propriétaires le total contrôle sur les rendements que se font ces réfugiés louant leur compte, créant alors de graves problèmes en matière de droit du travail et de traitement. Finalement, on retourne presque à un système féodal, bien que modernisé, les attributs sont similaires. On a un seigneur qui prend à ses paysans son dû chaque semaine sans que celui-ci n'ait son mot à redire.
Et pour terminer, il est essentiel de rappeler que ce film s'inspire non pas de l'acteur qui joue Souleymane, mais c'est Souleymane qui joue bel et bien un rôle s'identifiant à son véritable parcours de vie. Car le jeune Guinéen est encore aujourd'hui sous obligation de quitter le territoire français. Pour se préparer à ce film, l'apprenti acteur a donc fait de la livraison pendant plusieurs semaines pour se familiariser avec les gestes quotidiens tels que le vélo, le téléphone, le sac de livraison, l'application ou encore la manière de se présenter aux clients et aux restaurateurs. Et c'est avec l'aide de la production qu'il a déposé récemment une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture qui a accepté de réexaminer son dossier. Et c'est les 5 dernières minutes du film qui ont permis à Abou Sangar d'utiliser le médium du cinéma pour se permettre d'être écouté. Car oui, devant la jante de l'OFPRA, Abou Sangar, dans le rôle de Souleymane, raconte bel et bien son parcours et sa véritable histoire.
Dans ce long métrage de Boris Lochkine, Souleymane finalement ne deviendrait-il pas le symbole de ces réfugiés qui, à travers un récit à la fois fascinant et trompeur, cherchent à légitimer leur présence en France?
Et c'est la fin de notre podcast et de notre analyse sur le film L'Histoire de Souleymane, réalisé par Boris Lochkin. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous attend également, comme d'habitude, pour notre prochain numéro. Je le rappelle, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, Le Synops tout attaché. Jusqu'ici, prenez soin de vous et à bientôt.
Au revoir.
Topette, c'est fini pour ce soir et merci beaucoup à nos invités de ce soir. Merci Maxime d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu es donc programmateur du Joker's Pub, c'est rue Saint-Lô dans le centre-ville d'Angers. Est-ce que tu peux me donner trois arguments pour venir au Joker's Pub ?
Eh ben, on a de la super musique, on est pas cher, on est sympa.
Et donc on a parlé avec toi des 11 ans de ce bar, ça sera le 21, 22 et 23 novembre prochain. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos pratiques pour réserver?
Alors, soit sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, sinon on a un site internet où il y a toutes les infos, les horaires et où on peut réserver.
Alors, les deux premières dates sont complètes, c'est ça? Il reste des places pour la dernière?
C'est ça, le 21 et 22, jeudi, vendredi prochain, sont complètes. Et samedi, il reste des places. Ouais.
Bon, avant de se quitter, j'ai vraiment une question existentielle. On peut, sur la prononciation, on peut dire le Joker's, le Joker, pub, le à quel moment on met le S ou on met pas le S? C'est quoi la version
officielle? Moi, je mets toujours le S, en tout cas. Joker's.
Ok, bon, bah, si le programmateur du Joker's met le S, je pense qu'on peut.
Après, c'est comme vous voulez, en vrai.
Bon, bah, ça va, c'est plutôt souple. Tiens, Adrien, t'as pas laissé la parole sur le Joker's? C'est peut-être un lieu que tu fréquentes, toi?
J'avais été voir des concerts de rock, ouais. C'était assez chouette d'avoir ça en plein centre-ville, une vraie salle de concert. Et aussi, j'avais été pour du comedy club, pas pour jouer, mais pour voir. Et bah, ce serait cool que ça revienne, qu'on puisse revoir des petites scènes de comedy club au Joker.
On y travaille.
Le lieu s'y prête, quoi.
Bah, t'appuies sur le bon bouton, toi, Adrien. T'as compris que c'était Maxime qui faisait la programmation. En tout cas, c'est la bonne illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le Joker, ça parle à tout le monde, puisque Nolwenn, Adrien n'ont pas le même âge, moi non plus. Et on va pas pour les mêmes raisons. T'y vas, toi, Nolwenn?
Moi, j'y vais, mais plus pour boire un verre en terrasse.
Avec modération, bien évidemment. Maxime, merci beaucoup.
Au plaisir.
Les 12 ans l'année prochaine, t'es le bienvenu.
Avec plaisir, voilà, également.
Chaque année, il y aura un anniversaire, bien évidemment. Merci, Nolwenn, aussi. Nous, on se retrouve demain avec la commune de Loire-Authion. Adrien, nous, on se retrouvera que dans deux semaines, si tout va bien.
Avec plaisir. Voilà.
Avec une petite péripétie au Joker's, peut-être, le contexte de ta prochaine...
Je sais pas encore, on verra.
On verra. Il est en train de passer en H, Adrien, actuellement. Il capte vraiment de moins en moins bien. Prenez soin de vous, à demain, 100.5 FM, Topette, vous connaissez l'adresse, on va se quitter avec Lost Generation de Arcania. Et puis, bah, un petit big up à Nathan, s'il nous écoute actuellement. Topette!